Radio Kapi.
Oh, Kapi. 18h, le journal Pascal Masserica.
Les titres de l'actualité, les casques bleus pakistanais des Nations Unies s'apprêtent à quitter la RDC après leur déploiement au Sud Kivu où ils ont mené des opérations militaires visant à protéger la population, maintenir la paix et la sécurité de la province. Quatre syndicats d'enseignants du Nord Kivu 2 dénoncent ce qu'ils qualifient d'inaction du gouvernement congolais autour du décaissement des frais de participation aux examens d'État. À l'approche de ces épreuves, ils affirment à Goma qu'ils n'ont toujours pas obtenu la réaction du gouverneur. Notre invité, c'est le directeur général de L'Enfor, le logiciel informatique et ordinateur, une entreprise basée à Beni au Nord Kivu depuis 2 ans. Galit Malik parle des inspirations et de son fonctionnement. Madame, messieurs, bonsoir. Plus de 20 ans après leur déploiement en RDC, les casques bleus pakistanais de l'ONU s'apprêtent à quitter le pays. Ce contingent occupe en termes d'effectifs le premier rang des troupes onusiennes déployées dans la province du Sud Kivu. Ils ont mené dans cette province des opérations militaires visant à protéger la population, maintenir la paix et la sécurité de la province. Pour en parler, Rachel Kessembangu nous a appelé la journée de l'aéroport port de Kavumu, une localité située à une 20aine de kilomètres de Bukavu.
Depuis 2003, date de leur premier déploiement, des milliers de casques bleus pakistanais ont servi dans le Sud Kivu et 31 parmi eux ont perdu la vie dans l'exercice de leurs fonctions en quête de la paix. La chef de la MONUSCO a partagé son émotion au Pakistanais Bintou Keïta.
Au cours de leur engagement en faveur de la paix et de la sécurité en République démocratique du Congo, les troupes pakistanaises ont perdu 31 soldats qui ont donné leur vie pour la paix en République démocratique du Congo. Je voudrais juste vous dire mon émotion personnelle en ce moment.
Le retrait des casques bleus pakistanais est marqué par leur bonne collaboration avec les populations locales. Le ministre Sisawa Numbe, représentant du gouverneur du Sud Kivu.
Il faut signaler que votre travail a eu des zones de succès et notre province vous en restera reconnaissante. Pour autant qu'au-delà de la mission de maintien de la paix, vous avez également réaliser, participer à quelques projets de développement par-ci par-là dans la province et pour lesquels nous tenons à vous exprimer notre gratitude entière.
Tout compte fait, à compter d'aujourd'hui, la MONUSCO transfère la responsabilité de la sécurité et de la protection physique des civils aux forces de défense et de sécurité de la RDC qui continueront à assumer cette responsabilité en étroite coordination avec les communautés et les autorités locales. Bukavu, Rachel Kiesse, Radio Okapi.
Et dans un communiqué publié à cette occasion, la chef de la MONUSCO, Madame Bintou Keïta, a indiqué que le retrait de la mission des Nations Unies au Sud Kivu n'est pas synonyme du départ des Nations Unies en RDC. C'est une reconfiguration de la présence de l'ONU en soutien au peuple et au gouvernement congolais. Après le départ de la MONUSCO, les agences, fonds et programmes des Nations Unies continueront à fournir un soutien en relation avec leurs mandats respectifs. Les habitants de Kabarès saluent la collaboration étroite avec les casques bleus pakistanais qui se retirent. C'était à l'occasion d'une cérémonie organisée ce jeudi au camp de Kavumu, localité située à 32 km de Bukavu. Le président de la société civile de ce territoire affirme à Radio Kapi que les casques bleus avaient ramené la paix dans la région. Léonidas Tabaro est au micro de Rachel Kessembangu.
Nous ici à Kabarès, nous avons accueilli ces contingents de la MONUSCO. Et les relations étaient très très bonnes. Nous n'avons pas eu beaucoup de plaintes de la part de la communauté. On vivait ensemble et sans inquiétude. Nous avons loué d'ailleurs leur bravoure parce qu'il y a eu quand même la paix relativement. À certains endroits ici chez nous à Kabarès, nous n'avons pas eu beaucoup de soucis. Et à tout moment qu'il y a eu des plaintes de la part de la communauté, surtout la communauté riveraine du Penkabé, la MONUSCO intervenait, ses contingents intervenaient, ils mettaient leur vie en danger pour sauvegarder la population autochtone. Et ça, nous avons loué et nous sommes en train de regretter leur départ. Nous remercions toutes les Nations Unies, aussi les pays contributeurs qui nous ont dotés de ces contingents, qui nous ont quand même aidés à un peu rétablir la paix en RDC. Et nous disons merci et la population congolaise reste très reconnaissante, surtout aussi la population du territoire de Kabare, parce que nous sommes à Kabare. Elle reste très très reconnaissante des gestes de la sécurité assurés par ces contingents de la MONUSCO.
Au Nord Kivu, pendant ces temps, deux rebelles ougandais de l'EDF ont été tués et un autre capturé dans une nouvelle attaque qu'ils ont menée mardi soir à Guité, localité située à 17 km du centre-ville de Beni. Du coup, les activités sont restées paralysées ce jeudi suite à une manifestation des jeunes d'Nguité contre le regain de violence dans la région. C'est ce que nous explique à Beni Marc Marofimo.
C'est vers 20h, heure locale, que les EDF ont attaqué le village de Nguité. Des sources sécuritaires rapportent que les assaillants, à provenance de la région des Sayo, à l'ouest de la ville de Beni, voulaient traverser la route nationale numéro 4 pour se diriger vers le village de Masulukwede. Des militaires congolais et ougandais positionnés à Nguité sont immédiatement intervenus. Des violents affrontements s'en sont suivis. Deux rebelles ont été tués et un autre capturé. Jean-Paul Ngangundi, l'un des rescapés de cette attaque des EDF à Nguité, salue l'intervention de la force conjointe FRDC-UPDF.
Tout ce que je peux donner comme message, c'est de demander à la population de continuer à soutenir notre armée, à soutenir l'IPDF qui est venu en appui à notre armée, parce que moi, j'ai vu comment ils se sont échangés de coups et il y a eu des résultats. Et donc, nous ne pouvons que les encourager de continuer dans ce sens-là et demander peut-être à l'État congolais de le mettre dans de bonnes conditions, à le doter de tous les moyens nécessaires pour qu'il soit même de travailler pour le rétablissement de la paix et de la sécurité.
Ce jeudi, pour manifester leur désarroi, des jeunes ont manifesté en érigeant des barricades à Nguité Mavivi. Conséquemment, toutes les activités ont été paralysées dans cette partie de la ville de Beni. L'armée et la police sont intervenues pour rétablir l'ordre. Beni, Marc Marofimbo, Radio Kapi.
Fin à Bounia de la visite de 3 jours de la délégation des ambassadeurs des pays membres de l'Union européenne, des membres de la Cour pénale internationale et du Fonds au profit des victimes. C'est confié à la presse hier après-midi. Ils ont reconnu que beaucoup de victimes de violences des groupes armés attendent toujours réparation. Ils espèrent en définitive que des crimes commis en Ituri ne resteront pas impunis. Le compte-rendu de Jean-Claude Lokidile.
Cette descente sur le terrain avait comme pour but de rencontrer les préoccupations des bénéficiaires du programme de fonds au profit des victimes et parper du doigt les réalisations faites dans le cadre de soutien aux survivants des massacres de civils de 2003. Perrin Dembechambo, le juge de la CPI, énumère certains projets exécutés.
Soutien au logement, deuxième catégorie des activités génératrices de revenus, c'est-à-dire tout ce qui est à la fois la formation, mais aussi on leur a donné, là où ils les avaient perdus, du bétail. Permettre aux familles d'envoyer leurs enfants dans les écoles et la possibilité de consulter des médecins pour aider à remonter les traumatismes.
Pour le professeur Taylor Lubanga, point focal chargé de suivi de la coopération avec la CPI auprès de la présidence de la République démocratique du Congo, c'est un message fort pour les auteurs des crimes qui se commettent en RDC pour qu'ils sachent que ces actes ne resteront pas impunis.
Tout le sens de cette journée, c'est aussi de dire qu'il n'existe pas de crimes impunis et que les criminels ou ceux qui sont tentés de commettre les crimes ou qui sont tentés de s'associer aux auteurs des crimes. La journée d'aujourd'hui leur a servi, je pense, des leçons.
D'autres programmes de réparation pour les victimes des crimes commis en Ituri dans les affaires Thomas Lubanga et Bosco Ntaganda sont en cours d'exécution. Bounia, Jean-Claude Loki, Dile, Radio Kapi.
Et puis, s'exprimant hier devant le Conseil de sécurité de l'ONU à New York, l'envoyé spécial du secrétaire général des Nations Unies pour la région des Grands Lacs, Huang Xia, a dressé un tableau alarmant de la situation qui prévaut actuellement dans l'est de la RDC, marquée par l'intensification du conflit et la détérioration de la situation humanitaire dans l'est de la République démocratique du Congo. Pour la suite du journal, sachez que 4 syndicats d'enseignants de la province éducationnelle du Nord Kivu 2 dénoncent ce qu'ils qualifient d'inaction du gouvernement congolais autour de l'épineuse question du paiement des frais de participation aux examens d'État de l'édition 2024 à l'approche de ces épreuves. Ces syndicalistes affirment qu'ils n'ont toujours pas obtenu la réaction du gouverneur sur la question malgré les efforts consentis. Ces syndicalistes se demandent qui, des parents ou du gouvernement congolais, prendra en charge les frais des participations des élèves finalistes du secondaire. Un reportage de Gabriel Ouamenia rendu par Bernard Denyangui.
En quoi les corporations syndicales, dont le CIECO, la CDT, le CINEICO, c'est la lettre du gouverneur de province datant du mois de février dernier qui prête à confusion chez certains parents d'élèves et élèves finalistes. Dans cette correspondance adressée au ministère de l'EPST en février dernier, le général-major Peter Tshirimami sollicitait une exonération en faveur de tous les élèves finalistes de la province du Nord-Kivu. Le président de CIECO Nord-Kivu 2, Fidel Bichiko, explique.
Les parents savaient que les frais de participation aux examens d'étape 2024 sont exonérés parce que le gouverneur a écrit. Malheureusement, le gouverneur dit qu'il n'y a pas d'argent et les IPP ont déjà écrit que les parents doivent payer.
De son côté, le président de l'ANAPECO Nord-Kivu 1 appelle les parents à plus de prudence pour éviter d'éventuels désagréments. Denis Mounire.
Il y a des lettres adressées à l'autorité nationale par le gouverneur de la province. Il n'y a pas encore eu de suite. Nous avons déjà, nous, sensibilisé les parents de payer les 100 000 en attendant que Kinshasa réagisse.
Dans une correspondance de l'inspecteur principal provincial datant du 12 avril, ce responsable de l'enseignement demande aux parents de s'acquitter des frais de participation aux examens d'État de leurs enfants. Goma, Bernardin Nyangui, Radio Okapi.
On en vient maintenant à l'actualité politique avec le coup d'envoi ce jeudi au Sud-Kivu de la campagne pour les élections des sénateurs, gouverneurs et vice-gouverneurs. Les candidats passent devant les députés provinciaux pour les convaincre à voter pour eux lundi prochain. Pendant ces temps, la police est déployée pour maintenir l'ordre. Radio Okapi Bukavu, Emmanuel Elmejua Kabili.
Plus de 60 candidats sénateurs pour 4 sièges, plus de 20 candidats gouverneurs et leurs colistiers pour les gouvernorats de province. Ils défilent depuis ce jeudi matin devant les 48 députés provinciaux pour se faire valoir. L'Assemblée provinciale du Sud-Kivu accorde à chaque candidat un temps de 15 minutes. Il est interdit pendant la campagne électorale, selon la CENI, de tenir des propos injurieux ou diffamatoires, d'inciter à la haine, au racisme, au tribalisme ou à tout autre fait répréhensible par la loi. Il est également interdit d'inciter quiconque à la violence ou à priver d'autres personnes de leurs droits ou libertés constitutionnellement garantis. Pius Bikungu, secrétaire exécutif provincial de la CENI.
Les candidats sénateurs sont au nombre de 61. Les candidats gouverneurs sont au nombre de 23. Cette campagne électorale s'adresse seulement aux électeurs, les députés provinciaux.
Pour éviter des encombrements dans le déroulement de cette campagne électorale, la police nationale congolaise du Sud-Kivu restreint la circulation dans le parage de l'Assemblée provinciale au quartier La Botte. Seuls les officiels et autres fonctionnaires ont accès dans la zone de l'Assemblée provinciale. Emmanuel Elamejiwa Kabedi, Bukavu Radio Okapi.
Dans le même registre au Kasaï central, le bureau de l'Assemblée provinciale a publié hier soir le calendrier des auditions des candidats gouverneurs et vice-gouverneurs. Cet exercice durera 3 jours. C'est ce que nous raconte à Kananga François Kadima.
Les premières auditions se déroulent à partir de ce jeudi jusqu'au samedi. Chaque candidat aura 45 minutes pour convaincre les députés provinciaux appelés à choisir les prochains gouverneurs du Kasaï central et son vice. Dans la course, l'on retrouve 9 challengers, dont 4 femmes. Pour les auditions de ce jeudi, 3 candidates en lice. C'est notamment Annie Balaï, Astrid Madia et Lisette Sangana. Pour le vendredi, John Kabeyaki, candidat à sa propre succession à la tête de la province, se présentera devant les députés provinciaux. Denise Lissochoa et 7 autres candidates femmes alignées ce jour. Le troisième sur la liste est Jean-Marie Nyengele. Pour le troisième et dernier jour, les députés provinciaux attendent Dieudonné Likita, Joseph Moïse Kambulu qui est revenu dans la course à la suite d'une décision de la Cour d'appel du Kasaï central après avoir été écarté par la CENI. Le dernier qui va clôturer la série d'auditions, c'est Célestin Sangana. Au niveau de la CENI, l'on souhaite voir ces étapes jusqu'aux élections prévues le lundi prochain se dérouler dans la transparence. De Kananga, François Kadima, Radio Okapi.
L'actualité, c'est aussi la commémoration ce 25 avril de la Journée internationale de la lutte contre le paludisme. Dans le Kwilu, cette journée est célébrée à Bandunduville par la Division de la Santé publique. L'événement est marqué par une caravane motorisée sur les principales artères de la ville pour sensibiliser la population à la prévention. Au Maniema, par contre, le coordonnateur de la maison de l'Artémisia invite les habitants à consommer l'Artémisia, une tisane déjà approuvée par l'OMS pour faire face au paludisme. Amissi Abdallah est au micro de Florence Kizalunga.
Nous, comme maison de l'Artemis Yamanema, nous sommes en train de sensibiliser la population à consommer l'Artemisia pour lutter contre le paludisme, la bilharziose ainsi que beaucoup d'autres maladies. Et nous donnons un message à la population de Kindu en particulier et du Maniema en général de consommer l'Artemisia parce que c'est déjà approuvé par l'OMS. Le monde entier consomme déjà l'Artemisia et quiconque prendre notre tisane gratuitement ne sera jamais attrapé par le paludisme. Le thème que nous avons, c'est accélérer la lutte contre le paludisme pour un monde plus équitable. Et en tout cas, je suis en train de donner un message à la population que vous pouvez venir à la maison de l'Artemisia et vous aurez gratuitement la tisane et nous-mêmes nous saurons comment vous prendre en charge du débit de votre dépistage jusqu'à la guérison. Ça, c'est le message que nous donnons à la population de Kindu et au Maniema en général.
Actualité internationale.
À Nairobi, de violentes inondations ont fait 38 morts hier après-midi, selon un premier bilan dressé par la Croix-Rouge kényane. Près de 30 000 personnes ont dû fuir leur domicile. Ces fortes précipitations sont dues principalement à El Niño, un phénomène climatique venu de l'océan Pacifique qui apparaît tous les 6 ou 7 ans. Les inondations ont touché l'est du Kenya, mais aussi Nairobi, la capitale. Et puis au Mali, le cadre stratégique permanent pour la paix, la sécurité et le développement devient désormais le cadre stratégique pour la défense du peuple de l'Azawad. Il sera dirigé par le chef du mouvement national pour la libération de l'Azawad, un groupe armé du Nord membre de cette coalition. Ce changement de nom correspond ainsi à une redéfinition des objectifs.
L'invité.
Notre invité, c'est le directeur général de l'ONFOR, le logiciel informatique et ordinateur, une entreprise basée à Beni au Nord Kivu depuis des ans. Gad Malik parlait des inspirations et du fonctionnement de ce logiciel. Il s'entretient avec Guylaine Kassassia.
Gad Malik, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes les responsables de l'entreprise Lonefod qui œuvre dans le cadre du numérique. Qu'est-ce qui vous avait inspiré pour vous lancer dans cette aventure?
Ce qui m'a le plus inspiré, c'est le fait de vouloir créer un futur qui sera propice dans notre pays et qui pourra beaucoup plus aider les générations à venir, surtout en matière de technologie et du numérique.
En quelques mots, c'est quoi votre innovation et comment fonctionne votre structure, donc Lonefod?
Lonefod, c'est une entreprise de numérique, comme on l'avait dit, et nous intervenons beaucoup plus dans la création des sites web, des applications, ainsi que des logiciels. Mais aussi, nous créons des plateformes. Nous avons créé une plateforme qui va aider aux entreprises ou même aux personnel juridique de pouvoir récolter des données qui concernent les violences et qui pourront faciliter des personnes d'être en contact avec ces organisations et signaler des cas. C'est une plateforme que nous avons créée et qui s'appelle Haki System. D'autres innovations telles que une plateforme qui pourra aider les écoles à gérer leurs élèves et à permettre aux parents de voir les résultats, de voir l'évolution de l'élève au sein de son école, ça pourra aussi permettre à la sous-division, voire même au ministère de l'Éducation, de pouvoir récolter les données en temps réel concernant les élèves de chaque recoin de la RDC.
Oui, à part ça, vous faites quoi encore?
À part ça, nous intervenons encore dans des formations où nous créons aussi des plateformes de livraison en ligne qui pourra aider tout d'abord à la population de Beni de pouvoir faire des achats et des ventes sans pour autant se déplacer.
C'est depuis quand que vous avez initié cette structure Lonefod?
Lonefod, nous l'avons initié depuis presque 4 ans, mais nous sommes sur terrain depuis 2 ans.
Depuis les 2 ans là, quels résultats vous avez eu dans tout ce que vous faites? Est-ce que vraiment vous avez des clients?
Au début, comme toujours, c'était un peu difficile de pouvoir faire comprendre cette innovation à la population. Mais au fur et à mesure que nous sommes en train d'évoluer, la population est en train de comprendre l'utilité de nos plateformes et est en train de pouvoir utiliser. Et cela est en train aussi de nous être très bénéfique.
Gad Malik, alors, est-ce qu'il ne s'agit pas d'un pari osé, voire fou? Quand on sait que dans la région de Beni, on proie à la violence, les gens sont pauvres, surtout les connexions Internet sont aléatoires.
Bien sûr, toutes ces situations concernent notre ville, mais c'est surtout aussi une façon de pouvoir donner une belle image de la ville, mais aussi adapter notre population à pouvoir évoluer avec la nouvelle technologie. Dire que c'est un pari osé, c'est un peu exagéré, mais ça aide la population à bien de pouvoir profiter de ces plateformes qui n'est pas bénéfique qu'à nous, mais qui sera aussi bénéfique à eux-mêmes.
Et maintenant, quand il y a, par exemple, perturbation de l'Internet, vous faites quoi?
Quand il y a perturbation de l'Internet, bien sûr,
pendant deux ou trois jours, parce que ça arrive ici chez nous.
Oui, ça arrive très souvent et ça perturbe aussi nos activités. Mais il y a certaines activités qui continuent d'être faites sans pouvoir utiliser Internet.
Quoi par exemple?
Comme par exemple dans la gestion des écoles, on peut gérer toute une école sans connexion Internet. Mais dès que la connexion revient, on peut maintenant envoyer des données aux personnes qui souhaiteraient les avoir.
Maintenant, comment vous trouvez?
C'est simple, vous pouvez nous trouver sur Twitter, sur Facebook, à l'adresse de Lonford.
Pour finir cette journée de l'innovation et de la création, quels conseils donneriez-vous aux jeunes de la région qui naissent dans la violence, grandissent et vivent dans la pauvreté, qui poussent certains à regarder du côté des groupes armés?
Je souhaiterais qu'ils puissent voir aussi les positifs qu'il y a en ville de Beni, les grands potentiels qui est là en matière d'innovation et en matière d'entrepreneuriat pour pouvoir donner cette étincelle au monde entier pour montrer que Beni, ce n'est pas que les massacre. Béni, ce n'est pas que la violence, mais Béni, il y a aussi des têtes bien faites. Et cela aussi pourra réduire, comme vous l'avez dit, l'effet d'intégrer des groupes armés. Et donc, ils doivent persévérer. Mais aussi, j'encouragerai aux personnes de bonne foi de pouvoir aider ou même investir dans ces jeunes qui ont cette envie de vouloir entreprendre.
Gad Maliki, nous vous remercions.
Merci beaucoup.
C'était l'invité de Radio Capi, le directeur général de Lonfort. Gad Malik était interviewé par Guylaine Kassassia et c'est la fin de cette édition d'information sur Radio Capi. Merci d'avoir écouté. Merci à J.D. Bilandan, Kumar et Alain Rungmouchich qui m'ont accompagné.